suppose you know.
Jérusalem et Athènes. Jérusalem et Athènes. Et ça a été un livre publié en 1971, donc déjà il y a une douzaine d'années. Et c'est un livre très très intéressant, parce que c'est un assez gros livre, je me souviens plus justement, il doit avoir dans les 450 à 500 pages, et il rassemble des articles, en particulier de d'Oldeberde, de Cornelius Fanti, dont nous parlerons par la suite, et il y a un remarquable article exposant la théorie de la connaissance de Stoker, environ une cinquantaine de pages, donc c'est un article assez considérable, un chapitre assez considérable de Jérusalem et Athènes, et je crois que vous serez très passionné par l'exposé de cette théorie de la connaissance par Stoker. Une différence entre Dogeberg et Vollenhoven d'une part et Stoker d'autre part, c'est que tandis que Dogeberg et Vollenhoven ont développé leur philosophie chrétienne en la centrant sur l'idée de loi, Stoker, lui, a développé une philosophie chrétienne en la centrant sur l'idée de création. Remarquons, il faut dire ça, il ne faut pas majorer la différence, remarquons que l'idée de loi et l'idée de création vont nécessairement ensemble. D'ailleurs, vous savez que en anglais, au lieu de parler comme en néerlandais seulement de la wetsidee, de l'idée de loi, on a parlé d'une philosophie cosmonomique. Et dans le mot cosmonomique, vous avez l'idée de création, cosmos, et l'idée de loi, nomos. Donc, en réalité, avec l'idée de loi, Dogeberg et Vollenhoven parlent bien de la création, puisque, nous l'avons vu, la distinction entre Dieu et l'univers, c'est que, précisément, Dieu n'est pas soumis aux lois de l'univers, mais il a soumis l'univers aux lois qu'il a définies pour l'univers. Autrement dit, il y a un rapport étroit entre l'idée de loi et l'idée de création, puisque tout ce qui est créé est soumis aux lois que Dieu a établies pour le créer. Tandis que Dieu lui-même, s'il est bien loi à soi-même, et en ce sens, il n'est pas hors loi, il est loi à soi-même, Dieu, lui, a posé les lois de l'univers, mais n'est pas soumis aux lois auxquelles l'univers est soumis. Donc, vous voyez, il y a un rapport étroit entre l'idée de loi et l'idée de création. Donc, la philosophie chrétienne développée par Dogeberg et Vollenhoven ne va pas se trouver en opposition avec la philosophie chrétienne développée par Stoker. Disons qu'il s'agit plutôt de deux philosophies chrétiennes en complémentarité et qu'ils exposent au fond la même philosophie à partir de deux points de vue légèrement différents. C'est sûr, si vous voulez, quand on lit Dogeberg et quand on lit Stoker, on voit bien que le point de vue n'est pas le même. Mais on se rend compte aussi que ce sont deux philosophies chrétiennes complémentaires et non pas deux philosophies chrétiennes opposées. Et Stoker a particulièrement étudié la théorie chrétienne de la connaissance. Dans la suite de mon cours, d'ailleurs, je reviendrai sur certains points concernant aussi bien la philosophie de Dogeberg que la philosophie de Stoker, mais je voudrais aujourd'hui vous donner la substance de la théorie de la connaissance de Stoker. la connaissance que l'homme peut avoir présuppose la dépendance de l'homme en tant que créature d'image de Dieu par rapport à son créateur. Si vous voulez, c'est par là que Stoker commence. L'homme étant une créature image de Dieu ne va pouvoir avoir de connaissance que dans cette situation de dépendance qu'il a par rapport à son créateur. Parce que Dieu est le souverain créateur, recteur de l'univers, et qu'il révèle sa puissance éternelle et sa divinité dans et par cet univers qu'il a créé, et qu'il gouverne souverainement, les attributs invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et ses divinités, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, le premier point, c'est que la puissance éternelle de Dieu et sa divinité, c'est l'affirmation de Paul dans Romains 1:20, la puissance éternelle de Dieu et sa divinité sont comme évidents dans et par sa création. Mais parce que Dieu a fait l'homme à son image et lui a donné un sens de Dieu, un sens vers Dieu, un sens pour Dieu, l'homme a la capacité ontologique, métaphysique, de penser, de connaître. Donc, si vous voulez, les deux points fondamentaux de la théorie de la connaissance, selon Stoker, c'est tout d'abord que l'univers est révélation de Dieu et le second fondement, c'est que l'homme étant créé en image de Dieu, il a la capacité de penser et de connaître. Non pas que l'image de Dieu se borne à la pensée et à la connaissance, mais si l'homme pense et connaît, s'il a la capacité ontologique, métaphysique, de penser, de connaître, c'est parce qu'il est créature, image de Dieu. Une fois qu'on a bien saisi ces deux points fondamentaux, il faut leur ajouter un troisième point. C'est que le drame du péché, c'est que l'homme s'étant détourné de Dieu, tourne cette capacité ontologique, métaphysique qu'il a de penser, de connaître, contre la révélation divine qui l'entoure. Autrement dit, l'homme est placé dans un univers qui révèle Dieu. Il a la capacité ontologique de penser et de connaître, et voici qu'ensuite du péché, il va tourner cette capacité ontologique et métaphysique qu'il tient de Dieu contre la révélation de Dieu. Et c'est pourquoi Paul déclare, Paul, apôtre inspiré de Dieu, déclare que l'homme s'est rendu ainsi inexcusable. Il connaît Dieu et en même temps il refuse de le connaître. Il nie l'évidence. Il retient injustement la vérité captive, préférant servir la créature plutôt que le créateur. Alors, je pense que vous avez tous vos Bibles. Si vous n'avez pas, c'est dommage. Nous allons suivre un peu l'écoute que fait Stoker de ce passage dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais qui est fondamental pour la philosophie chrétienne, de Romains 1, 18 à 30. Alors nous allons voir tout d'abord les versets 18 à 20. Alors ouvrez vos Nouveaux Testaments à ce chapitre 1 des Romains. Romains 1, et nous prenons au verset 10. La colère de Dieu, orgé séou, la colère de Dieu, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, littéralement, il y a to gnoston tou séou. Il faudrait traduire littéralement le connaissable de Dieu. Le connaissable de Dieu. Ce qu'on peut connaître de Dieu. Le connaissable de Dieu. Et le texte grec dit phaneron en autos. Et clair, évident, en eux et pour eux. Le connaissable de Dieu est clair, en eux, pour eux. Car Dieu le leur a rendu évident. Alors, dans le texte grec, vous avez « car Dieu, autos et phanérosé ». Alors, vous voyez, vous avez une répétition. « To gnoston tou theou, phaneron, phaneron, en autos ». Et ensuite, « autos, Dieu, théos, autos et phanérosé, le leur a rendu clair ». C'est clair parce que Dieu l'a rendu clair. Dans nos traductions françaises, évidemment, on dit par exemple, c'est clair pour eux ou en eux, parce que Dieu le leur a manifesté. Alors, vous voyez, il n'y a plus le rapprochement qu'il y a dans le texte grec. Il vaudrait mieux traduire, le connaissable de Dieu est évident en eux ou pour eux, car Dieu leur en a donné l'évidence. C'est évident parce que Dieu en a donné l'évidence. Autrement dit, les hommes n'ont pas à faire des efforts désespérés pour saisir une vérité divine qui serait inaccessible. Autrement dit encore, ce n'est pas innocemment qu'ils ont menti le connaissable de Dieu. Et c'est ça qui rend les hommes inexcusables. Quand l'homme regarde le monde, regarde l'univers, il a, dans cet univers, une évidence de Dieu. Si vous voulez, je prends, j'ai peut-être déjà employé cette image, mais il me semble qu'elle est très éclairante, c'est pour cela que je veux l'employer. Vous vous trouvez devant une œuvre, mettons une œuvre de peinture, et vous dites, c'est du Picasso. C'est évident, c'est du Picasso. Et bien de même, en regardant l'univers autour de lui, l'homme doit dire, c'est de Dieu, c'est du Dieu. C'est évident. De même que Picasso signe sa toile, non pas seulement parce qu'il met sa signature, mais par sa toile elle-même. On reconnaît le peintre à son œuvre, on dit, ça c'est du Picasso. Eh bien, de même, Dieu a signé son œuvre universelle. Il a signé sa création. Pourquoi ? Parce que tout dans l'univers donne l'évidence que l'univers est de Dieu. La puissance éternelle et la divinité de Dieu se voient comme à l'œil, dit saint Paul, quand on considère la création, quand on considère l'ouvrage de Dieu. Alors, cette évidence de Dieu que l'homme a devant ses yeux et sa pensée, cette évidence de Dieu, à cause du péché, L'homme la rejette. Il connaît Dieu, il a devant lui l'évidence de Dieu, et il rejette cette évidence. Il est donc, dit saint Paul, inexcusable. Je voudrais revenir sur l'expression «to gnoston tou theouda», le connaissable de Dieu, et «phaneron enotos», enotos. On peut traduire par «en eux» ou «pour eux». Mais il faut bien voir, dit Stocker, que cette expression «en eux» ou «pour eux» a deux sens. Il y a d'abord un sens général. C'est en lui-même que l'homme connaît ce qui lui vient du dehors. Autrement dit, il y a l'univers autour de nous, mais finalement c'est en nous que nous connaissons cet univers qui est autour de nous. Ça c'est le sens général. Mais il y a un sens particulier. Car la connaissance, le connaissable de Dieu, est en l'homme lui-même, puisqu'il est image de Dieu, et qu'il ne peut se couper de la réalité de sa propre constitution. Autrement dit, l'évidence de Dieu est dans l'univers autour de nous. Mais, comme nous sommes nous-mêmes des créatures image de Dieu, cette évidence de Dieu est en dedans de nous, dans notre propre constitution. Vous voyez la différence que souligne bien Stocker. L'évidence de Dieu est autour de moi, dans la création qui m'entoure. Par exemple, l'évidence de Dieu, elle est dans ce coin de ciel que je vois, dans ces arbres que je vois, dans ces amis, dans ces frères et sœurs que vous êtes là devant moi. Bon, tout cela autour de moi m'apporte l'évidence de Dieu. C'est du Dieu. Comme on dirait, c'est du Picasso. C'est du Dieu. L'évidence de Dieu, elle est là autour de moi. Mais bien plus. L'évidence de Dieu, elle est aussi en dedans de moi. En dedans de moi, en ce sens que Dieu m'a créé à son image. Si je suis une créature en image de Dieu, il y a aussi une évidence de Dieu en dedans de moi. Donc, on peut dire que la révélation de Dieu, la révélation générale de Dieu, est à la fois autour de moi et en moi. Elle est autour de moi parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses et qui régit, gouverne toutes choses, moi compris, bien sûr. Mais en plus, cette évidence de Dieu, elle est dans ma constitution même. L'être ontologique, l'être métaphysique que je suis, c'est l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Et donc, la révélation générale de Dieu est autour de moi. Et elle est en moi. Continuons notre lecture. En effet, les aorata de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, la aorata, ça signifie simplement les invisibles. Si on traduisait littéralement, on aurait en effet les invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Ça. Mais on est obligé d'ajouter, en bon français, on ne peut pas dire les invisibles de Dieu, il faut dire les attributs invisibles de Dieu ou les perfections invisibles de Dieu. Hein. Sa puissance éternelle et sa divinité sont évidentes, katoratai, apoktiseos kosmou, à partir de la création du monde. Étant saisi par l'intelligence, noumena, dans les choses qu'il a faites. Autrement dit, l'intelligence, la pensée, perçoit ce que les sens ne perçoivent pas, à savoir la puissance éternelle et la divinité de Dieu. Évidemment, ce ne sont pas les sens qui vont percevoir la puissance éternelle et la divinité de Dieu, mais c'est ma pensée qui, par l'intermédiaire de mes sens, va percevoir la puissance éternelle et la divinité de Dieu. Autrement dit, mes yeux me font voir le monde, les choses, les êtres autour de moi, mais ma pensée, à partir de ce que mes sens perçoivent, perçoit la puissance éternelle et la divinité de Dieu, l'évidence de Dieu. Alors, prenons cette expression, la puissance éternelle et la divinité de Dieu. Dieu a mis l'empreinte de sa gloire sur l'œuvre de ses mains. Autrement dit, le système, l'ensemble cosmique autour de l'homme et en l'homme lui-même, signale, signifie clairement le Créateur, de même que les formes dessinées par Picasso et les couleurs jetées sur la toile par lui signalent, signifient clairement Picasso lui-même. Picasso a mis son empreinte sur son œuvre, Dieu a mis son empreinte sur son œuvre. Et de même que le talent ou le génie de Picasso se manifeste dans ses toiles, de même la gloire de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans la création, dans l'œuvre que Dieu a créée. L'homme sait cela. Il ne peut manquer de le savoir. Il ne peut pas ne pas le savoir. Tout homme a sous les yeux et dans sa pensée l'évidence de Dieu. Et cependant, inexplicablement, irrationnellement, l'homme met hors circuit, emprisonne ce savoir. Par impiété et injustice, il emprisonne la vérité. C'est ce que Paul dit dans ce passage de Romains 1. Passons maintenant au verset 21 à 23. Les hommes sont donc un apologétos, sans excuse, sans défense, sans apologie possible. Hein, en grec, apologia, là se trouve là, la racine de un apologétos. Hein, les hommes sont sans apologie, sans défense, sans excuse, puisque, connaissant Dieu, gnontes tout ton deon, ils ne le glorifient pas comme Dieu et ne lui rendent pas grâce. Glorifier Dieu, attention, c'est non pas ajouter à la gloire essentielle de Dieu, mais lui reconnaître en pensée, en dévotion, en affection, en obéissance, la place souveraine qui lui appartient en vertu des attributs que manifeste sa création. Si bien que le paganisme, loin d'être la religion première, primitive, est une religion pervertie. Vous avez beaucoup de textes bibliques qui nous parlent de cette évidence de Dieu que signale Paul dans Romains 1. Je vous en indique simplement trois qui se trouvent dans les livres des psaumes. Au psaume 8, les versets 2 et 4 à 10. Éternel notre Seigneur, que ton nom, on pourrait dire que ta révélation c'est la même chose, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Intéressant de voir que ce texte aussi nous montre à la fois l'évidence de Dieu dans l'ensemble du cosmos, et l'évidence de Dieu en l'homme lui-même, que Dieu a fait à son image. Alors là, au lieu de nous dire que l'homme est fait à l'image de Dieu, le texte, le psalmiste nous dit que tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de splendeur, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, etc. Second texte, le psaume 139. Psaume 139, les versets 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Et enfin, au psaume 19, les versets 1 à 5a. Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix ne se fait pas entendre. Leur trace apparaît sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Alors voyez-vous, il y a d'autres textes, on pourrait parler de textes chez les prophètes, en particulier chez le prophète Ésaïe, mais ce qui est sûr, c'est que il y a un témoignage des créatures, à la fois fort et silencieux, auquel nul ne peut échapper parce que ce témoignage des créatures est un témoignage universel. Si l'on parle en termes, ça revient au même, d'ailleurs vous allez le voir, en termes plus philosophiques, nous sommes des êtres rationnels. Ça ne veut pas dire rationnel. Nous sommes des êtres rationnels, dans un univers rationnel, ayant, nous, les hommes, une raison, une logique, témoignant du logos. Il y a un rapport que la Bible établit entre le logos et l'adjectif logikos. Logikos a donné en français logique. Eh bien, nous sommes des êtres logiques, rationnels. Pourquoi ? Parce que nous sommes des créatures du logos de Dieu. C'est le Verbe de Dieu, le logos de Dieu, qui a créé toutes choses. Toutes choses sont de lui, par lui et pour lui. Alors, le péché nie cette vérité en proclamant une prétendue autonomie de l'univers et de l'homme. Alors Paul écrit, je continue mon texte, « Les hommes se sont égarés dans de vains raisonnements, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. » Donc on peut dire, un, futilité intellectuelle, ils se sont égarés dans leurs pensées. Deux, ténèbres spirituelles, leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Trois, incroyable folie, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et quatre, fausse religion, ils ont remplacé la gloire de Dieu par des images. On peut ajouter à cela le verset 25, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. D'où les conséquences, 5, immoralité personnelle et sociale, dégénérescence. Ce sont les versets 24 et à suivant jusqu'au verset 32. C'est pourquoi, etc. Donc, et je dirais, on est en pleine actualité, puisque dans ce qu'énumère, pour indiquer cette dégénérescence des hommes devenus fous, l'apôtre Paul nomme en particulier l'homosexualité, c'est la chose qui est indiquée dans son projet. Ça ne veut pas dire que ce soit la chose la pire, mais enfin, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, leurs femmes ont remplacé leurs relations naturelles par des actes contre nature, et de même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc, toutes les conséquences de l'immoralité, dont l'homosexualité n'est qu'un exemple, comme ce que Stoffer met en valeur, c'est en fait le profond mystère qui est à la racine de la connaissance. C'est le mystère de la rencontre entre le connaissant qu'est l'homme et le connaissable qui l'enveloppe et le comprend lui-même. C'est le mystère de la rencontre entre l'homme et son environnement, en se comprenant lui-même, l'homme, dans cet environnement. Il y a là un mystère, c'est le mystère de l'épistémologie, c'est-à-dire c'est le mystère de la doctrine de la connaissance. Et je dirais, on ne voit pas comment, si l'on rejette la parole de Dieu, si l'on rejette l'enseignement de la Sainte Écriture, on peut même approcher de ce mystère de la connaissance. Toutes les théories de la connaissance, qu'elles soient idéalistes, réalistes, et plus qu'on voudra, butent finalement contre ce mystère profond. Nous ne pouvons comprendre ce fait que l'homme connaît, nous ne pouvons comprendre ce fait que l'homme a la capacité de connaître, que si nous savons qu'il est une créature, image de Dieu, dans le contexte d'une création qui est l'œuvre de l'intelligence de Dieu. Au fond, on peut dire très simplement, si l'homme est capable de connaître, c'est que Dieu l'a fait à son image, capable de connaître, et l'a placé dans un univers qui est créé, régi, gouverné par Dieu qui est l'intelligence même, le logos même, la pensée même. Au fond, on ne peut, je dirais, découvrir quelque chose du mystère de la connaissance que si l'on reçoit les deux affirmations fondamentales de Stoker que je vous ai rappelées en commençant ce cours. Un, nous sommes dans un univers rationnel et donc susceptible d'être connu. Et deux, nous sommes des créatures rationnelles puisque nous sommes des créatures à l'image de celui qui est le logos, qui est la raison même. Et c'est pourquoi, finalement, les chrétiens reçoivent de la parole de Dieu la clé de la connaissance. Comment peut-on rendre compte du mystère de la connaissance si l'on oublie ces deux choses, que nous sommes dans un univers rationnel, susceptible d'être connu, et que nous sommes nous-mêmes des créatures rationnelles à l'image de Dieu qui est le logos, la raison, l'intelligence qui a créé l'univers. Et c'est pourquoi je crois que Stoker nous apporte là quelque chose de très très important, de très très fort. Je serai un peu plus bref en parlant maintenant de Taillard. Son prénom, Yann. Yann Taillard. C'est un ami et un contemporain de Stoker. Stoker est un peu plus âgé, je n'ai pas noté et je ne me souviens pas des dates exactes de la naissance de Stoker. Stoker est toujours d'ailleurs vivant. Et ce que je sais, c'est que Dalia, lui, est né en 1915 dans le Transvaal. Il a donc actuellement entre 68 et 69 ans. En 1976, c'est déjà vieux, il y a donc maintenant 7 ans bientôt, j'ai eu la joie de passer plusieurs jours à l'université de Potchefstroom et j'ai eu la joie, je dirais, de pouvoir m'entretenir aussi bien avec Stoker qu'avec Staglia, si bien que c'est pas seulement parce que j'ai lu un peu de leurs articles et de leurs œuvres, mais aussi parce que j'ai pu m'entretenir avec eux, que je peux vous rendre compte un petit peu de leurs pensées. Et Staglia est un compagnon de Stoker. Il a succédé à Stoker dans l'enseignement à l'université de Potchefstroom. C'est en 1965, très exactement, qu'il a succédé à Stoker à la tête du département de philosophie de l'université de Potchefstroom. L'expression bizarre de Dalia, sur laquelle je reviens à plusieurs reprises, aussi bien dans ses articles que dans les conversations qu'on peut avoir avec lui, c'est celle de vers pesés. Ça semble un peu bizarre d'employer cette expression, mais je vais m'en expliquer. Dalia dit, au fond, nous sommes comme des hommes ayant besoin de lunettes pour y voir. Au fond, Jésus-Christ et l'Esprit-Saint viennent corriger notre vue. Depuis la chute, les hommes ont la vue brouillée. Et voici que Dieu leur donne des lunettes pour corriger leur vision brouillée. Mais il faut progresser, dit Stoker. Et nous avons besoin que les verres de nos lunettes soient de plus en plus polis, de manière à ce que notre vision devienne de meilleur en meilleur. Ce qui est intéressant, j'ai oublié de le demander à Dalia, mais je pense, c'est mon interprétation, qu'il a emprunté cette image des lunettes à Calvin. Évidemment, vous ne risquez pas de trouver l'image des lunettes chez les philosophes de l'Antiquité grecque, parce que les lunettes n'existaient pas à leur époque. Mais au XVIe siècle, les lunettes existaient déjà, et en tout cas, on trouve dans l'institution chrétienne de Calvin, à plusieurs reprises, cette image des lunettes. Si bien que je pense que Taillard, qui est un bon disciple de Calvin, ou bien les choses, a sans doute emprunté cette image à Calvin. Et je trouve que c'est parlant. Voilà, l'homme, ensuite du péché, a les yeux brouillés, aussi bien quand il regarde au monde, que quand il regarde aux autres, que quand il regarde à lui-même. Sa vue brouille tout. Et voilà que, par sa grâce, Dieu nous donne des lunettes pour corriger notre vision déformée, brouillée, du monde, des autres et de nous-mêmes. Il faut reconnaître que Dalia est un homme dont, je dirais, l'ampleur des connaissances de la culture est reconnue, puisque non seulement il est membre de l'Académie sud-africaine des sciences et des arts, mais qu'il est même président de la Société philosophique d'Afrique du Sud, qui groupe d'ailleurs aussi des des non-chrétiens, des gens qui étaient... Mais tous ces hommes ont reconnu en Taillard un homme d'envergure, un philosophe d'envergure, puisqu'il est actuellement encore président de la Société philosophique d'Afrique. Il y a plusieurs thèmes taillardiens. Tout d'abord, le thème Dieu et sa création. Et là, ce qui est intéressant, et je rejoins ce que j'avais dit en commençant ce cours, c'est que Taillard va combiner l'idée de création, développée en particulier par Stoker, et l'idée de loi, développée en particulier par d'Hoyevaert et Vollenhoven. Et il va unir l'idée de création et l'idée de loi en montrant que la loi n'est jamais une loi impersonnelle. En ce sens que derrière toute loi concernant la création, il y a le fait non seulement que la loi a été donnée par le Créateur, mais qu'elle est maintenue par lui. Autrement dit, Dieu n'a pas seulement donné des lois à sa création, mais Dieu veille au maintien de ses lois. Dieu conduit sa création en veillant sur elle, et une des façons dont Dieu veille sur sa création, c'est sa présence dans le maintien des lois qu'il a établies pour sa création. Donc, souvenez-vous, Taillard combine au fond l'idée de création et l'idée de loi en montrant que finalement les lois que Dieu a établies pour sa création ne sont pas des lois impersonnelles. Dieu est toujours derrière la loi qu'il a donnée et qu'il maintient, et derrière, je dirais, ceux qui sont soumis à ces lois. Deuxième thème, l'homme et l'ordre du cosmos. En anthropologie, c'est-à-dire dans la doctrine de l'homme, Taillard souligne l'importance du cœur comme centre préfonctionnel de toute l'existence et de toute l'activité humaine. Mais on peut dire que dans ce domaine de l'ordre du cosmos et de l'homme, et donc là on touche à une question carrément philosophique, Taillard fait glisser l'accentuation de la cosmologie à l'ontologie. Si vous voulez, chez d'Hoyevaert comme chez Stoker, l'accentuation est sur la cosmologie. La philosophie chrétienne de d'Hoyevaert, c'est une philosophie cosmonomique. Tandis que, et chez Stoker, vous avez aussi l'idée cosmologique comme dominant. Tandis que Taillard, lui, fait glisser l'accentuation de la cosmologie à l'ontologie. Et c'est important parce que Taillard peut développer, nous y reviendrons dans la suite du cours plus tard, peut développer une ontologie chrétienne, chose que, par exemple, d'Hoyevaert n'avait pas tellement fait. Enfin, là aussi, disons, il ne s'agit pas d'opposition, mais de complémentarité. Troisième thème, l'homme et les valeurs. Lorsque Taillard avait soutenu sa thèse de doctorat en philosophie, il avait fait porter cette thèse sur les valeurs précisément. Vous savez que les valeurs, cela joue un rôle considérable dans la philosophie moderne. Et Taillard a essayé de développer, d'approfondir la notion de valeur en prenant ce mot et en développant
sa philosophie autour de ces mots à la lumière de la révélation chrétienne. Donc c'est une particularité de Taillard que de mettre en honneur dans la philosophie chrétienne les valeurs. Et enfin, dernier thème, et c'est par là que je finirai mon cours, la foi et la vie sociale. Taillard souligne la misère et l'étroitesse d'une religion qui serait restreinte à la seule sphère de la grâce et pas à celle de la nature, ou encore à la sphère de la théologie et pas à celle de la philosophie et des sciences. Pour Taillard, la religion chrétienne doit comprendre aussi bien la sphère de la grâce que celle de la nature et doit comprendre aussi bien la sphère de la théologie que celle de la philosophie et des sciences. Curieusement, souligne encore Taillard, c'est la vérité de Dieu, la vérité biblique, qui n'aurait qu'une validité particulière, alors que la philosophie ou la science autonome aurait une validité universelle. Alors Taillard combat cette idée. Il dit, pour bien des gens, si vous voulez, la vérité biblique serait un secteur à côté des autres secteurs. Et finalement, même, on fait passer un secteur comme celui de la philosophie, ou un secteur comme celui des sciences, comme englobant l'ensemble. Alors, Taillard dit, mais c'est effarant que des chrétiens aient pu accepter cela, à savoir que la vérité de Dieu, la vérité biblique, ne représenterait qu'un secteur, et que finalement, s'il devait y avoir un secteur englobant, si l'on peut conjoindre les deux mots secteur et englobant, ce serait par exemple la philosophie qui engloberait le tout, ou les sciences qui engloberaient le tout. Alors, Taillard nous dit, non, pas du tout. La vérité biblique, c'est la vérité englobante. C'est la vérité englobante. Et finalement, si vous voulez, la révélation de Dieu, la parole de Dieu, domine, comprend tous les secteurs de l'existence humaine. Et si notre religion ne saisit pas cela, ne voit pas cela, alors nous n'avons plus qu'une religion restreinte, nous n'avons plus qu'une religion partielle, nous n'avons plus qu'une religion qui deviendrait un petit secteur de notre vie ou un secteur à part de notre vie. Et c'est pourquoi une des passions de Taillard, c'est l'idée de l'université chrétienne. Aujourd'hui, dit-il, on n'a plus que des multiversités, c'est-à-dire des disciplines sans cohérence, qui sont fragmentées, qui sont juxtaposées. Alors on a par exemple une faculté de droit, une faculté de lettres, une faculté des sciences, etc. Mais entre ces différentes facultés, il n'y a pas d'unité. Si bien qu'on ne peut pas vraiment parler d'université. Parce que dans le mot université, qui est un mot d'ailleurs médiéval, et un mot chrétien, vous avez à la fois un et divers. Tandis que dit Taillard, au fond, aujourd'hui, il n'y a plus d'université. On emploie le mot, mais c'est un mot qui n'a pas de sens. On a plutôt des multiversités. Parce que on a la diversité, mais une diversité qui n'est plus que multiple, sans unité. Et alors Taillard est un de ceux qui militent pour la création, un peu partout dans le monde, d'université chrétienne. Et là, il faut reconnaître que l'université de Potsdam, par exemple, est le modèle d'une université chrétienne, en ce sens que c'est une université où vous avez précisément une faculté des sciences, une faculté de théologie, une faculté de droit, une faculté de lettres, même une faculté des sciences économiques, etc. Vous avez une différence. Mais toutes ces diverses facultés ont ensemble une unité qui vient justement de leur vision chrétienne des choses. Du fait justement que toutes les recherches et tous les enseignements doivent être à la lumière sous la norme de la parole de Dieu. Seule, dit-il, une bonne philosophie, une philosophie chrétienne, peut établir, ou plutôt rétablir, un lien interdisciplinaire entre les diverses sciences. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire chez ces deux philosophes réformés sud-africains, et nous passerons la semaine prochaine aux philosophes chrétiens américains, en nommant deux philosophes contemporains aussi, Cornelius Funke d'une part et Verne Paul Fresse d'autre part.